la montée des clivages identitaires dans le Royaume-Uni postcolonial. Venons-en maintenant à la question des clivages identitaires au Royaume-Uni. De prime abord, les données dont nous disposons et les réalités qu'elles nous permettent de voir sont relativement proches du cas français. Commençons par les données portant sur les religions déclarées par les électeurs, qui sont disponibles dans toutes les enquêtes post-électorales menées au Royaume-Uni depuis les années 1950, et permettent de suivre l'évolution des clivages électoraux en fonction de la religion depuis les élections législatives de 1955 jusqu'à celles de 2017. On constate tout d'abord que le Royaume-Uni, de même que la France, était dans une large mesure monoreligieux et monoethnique jusqu'aux années 1960 et 1970. Lors des élections législatives de 1964, 96% de l'électorat se déclarait comme faisant partie des différentes confessions chrétiennes, 3% comme n'ayant aucune religion et seulement 1% pour toutes les autres religions réunies, en particulier le judaïsme et de façon très minoritaire l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Les 96% d'électeurs chrétiens déclarés de 1964 se décomposaient en 65% d'anglicans, 22% d'autres protestants et 9% de catholiques. Au sein des électeurs se décrivant comme chrétiens, les électeurs anglicans ont toujours le plus fortement voté pour les conservateurs, suivi des autres protestants, suivi des catholiques qui votent pour les travaillistes dans des proportions comparables aux électeurs sans religion. La proportion de personnes se déclarant sans religion va cependant croître de façon spectaculaire à partir de la fin des années 1960 et 1970, pour passer de 3% de l'électorat en 1964 à 31% en 1979 et 48% en 2017. La progression est encore plus rapide qu'en France, où la proportion d'électeurs sans religion déclarés passe de 6% en 1967 à 36% en 2017. Elle est surtout beaucoup plus forte qu'aux États-Unis, où de façon générale, la religiosité est restée sensiblement plus forte qu'en Europe. S'agissant des autres religions, on constate que la proportion d'électeurs se déclarant de confession musulmane était inférieure à 1% au Royaume-Uni en 1979, avant de passer à 2% en 1997, 3% en 2010 et environ à 5% en 2017. La progression est quasiment identique à celle observée en France, où cette proportion est passée d'à peine 1% de l'électorat en 1988 à 2% en 2002, 3% en 2007 et 5% en 2017. Les populations de confession musulmane ont certes des origines géographiques très différentes au Royaume-Uni, où elles viennent principalement d'Asie du Sud, et notamment du Pakistan, de l'Inde et du Bangladesh, et en France, où elles sont arrivées pour l'essentiel d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc. Cela reflète des histoires coloniales et postcoloniales différentes. Cependant, ces deux pays, qui étaient à la tête des deux principaux empires coloniaux de la planète au XIXe siècle et jusqu'aux années 1950-1960, qui n'avaient jamais connu jusqu'aux années 1970-1980 de cohabitation substantielle sur leur territoire entre des personnes de confession chrétienne et musulmane, ont vu, au cours de la période 1990-2020, la proportion d'électeurs de confession musulmane s'élever graduellement à un niveau de l'ordre de 5%, ce qui n'est pas très élevé dans l'absolu, mais un peu plus substantiel que les niveaux inexistants d'interaction et de mélange observés auparavant. De la même façon que pour la France, il s'agit ici de données portant sur les électeurs. Si l'on considère la population résidente au Royaume-Uni, indépendamment de la nationalité et de l'inscription sur les listes électorales, la proportion de musulmans déclarés avoisine les 7-8% suivant les sources à la fin des années 2010, soit approximativement le même niveau qu'en France. Dans le cas du Royaume-Uni, on notera que les électeurs déclarant une religion autre que le christianisme et l'islam ont également progressé pour atteindre 3-4% dans les années 2010, dont près de 2% au titre de l'hindouisme, moins de 1% pour le judaïsme et moins de 1% pour le bouddhisme et les autres religions. Si l'on examine maintenant la façon dont les comportements électoraux varient en fonction de la religion déclarée au Royaume-Uni, voire graphique 15.16, on constate des résultats extrêmement proches de ceux observés dans le cas de la France. Historiquement, les personnes sans religion votent plus fortement pour les travaillistes que les électeurs de confession chrétienne, avec toutefois un écart moins marqué qu'en France. Quant aux électeurs de confession musulmane, on constate qu'ils ont systématiquement voté à 80-90% pour le Parti travailliste depuis les années 1980-1990. De la même façon qu'en France, ils ont voté pour les partis de gauche. L'écart avec le vote des autres électeurs avoisine les 40 points. De même qu'en France, cet écart ne s'explique que très partiellement par les caractéristiques socio-économiques des électeurs. Une particularité des données britanniques est que les enquêtes post-électorales menées au Royaume-Uni depuis 1983 incluent également des questions sur l'auto-identification ethnique. En revanche, les enquêtes britanniques n'incluent jamais de questions sur les pays d'origine des grands-parents, si bien qu'il n'est pas possible de faire une comparaison avec les résultats obtenus pour la France pour la période récente. Concrètement, les catégories ethniques utilisées dans les enquêtes post-électorales britanniques donnent la possibilité aux individus enquêtés de se classer comme blancs, africains, caribéens, indiens, pakistanais et autres. Catégories qui regroupent notamment les individus se décrivant comme ethniquement chinois, arabes, autres asiatiques, etc. Par exemple, lors de l'enquête post-électorale de 2017, parmi les électeurs acceptant de répondre à cette question, 89% des électeurs se sont déclarés comme blancs, 3% comme africains caribéens, 6% comme indiens pakistanais et 2% comme autres. Alors que les blancs ont voté à 41% pour le Parti travailliste, les africains caribéens ont soutenu le Labour à 81%, les indiens pakistanais à 82% et les autres groupes ethniques à 68%. Voir graphique 15.17. On observe donc de nouveau que les votes exprimés sont extrêmement clivés, dans des proportions similaires à celles observées en France pour les personnes déclarant un ou plusieurs grands-parents d'origine maghrébine ou africaine. On notera également qu'une proportion significative de l'électorat britannique refuse de répondre à la question. C'est par exemple le cas de 5% de l'électorat en 2017, soit près d'un tiers de l'électorat qui ne se déclare pas comme blanc. Il peut s'agir de personnes qui ont des origines étrangères, métissées ou non, qui ne se reconnaissent pas dans les catégories proposées, ou plus généralement d'électeurs qui ne s'identifient pas à une catégorie ethnique particulière, ou qui trouvent la question déplacée. Quoi qu'il en soit, on constate que ce groupe vote à 77% pour le Parti travailliste, sans que cela puisse s'expliquer par ses caractéristiques socio-économiques. Il me semble que cela illustre les difficultés posées par ces catégorisations ethniques qui obligent les uns et les autres à se mettre dans des boîtes auxquelles ils ne s'identifient pas, ce qui peut conduire à durcir les frontières entre les groupes. Dans le cas britannique, on notera également que 98% de l'électorat se déclarait comme blanc au début des années 1980 et que les 2% des non-blancs votaient déjà travaillistes à 80-90%. De façon générale, même si le clivage migratoire ne devient véritablement prégnant qu'à partir des années 1980 et 1990 au Royaume-Uni, on observe des premières formes violentes de politisation dès la fin des années 1960 et les années 1970. Par comparaison à la France, où la politisation de la question des immigrés extra-européens va se faire avec la création d'un nouveau parti, le Front National, le processus se déroule pour une large part à l'intérieur du bipartisme conservateur-travailliste au Royaume-Uni, avec le développement de courants de plus en plus ouvertement anti-immigrés au sein du Parti conservateur. Dans l'après-guerre, les gouvernements britanniques avaient tenté de préserver les liens à l'intérieur du Commonwealth, en favorisant la libre circulation au sein de l'ancien empire colonial. En particulier, la loi sur la nationalité de 1948 donnait en principe la possibilité à tous les ressortissants des pays du Commonwealth de venir s'installer au Royaume-Uni et de bénéficier de la nationalité britannique. La libre circulation fait également partie des principes fondateurs des diverses formes de communautés françaises, puis d'union française que la France va tenter de développer pour transformer l'ancien empire colonial en une fédération supposément démocratique et égalitaire entre 1946 et 1962. En pratique, on constate dans les deux cas la mise en place dès le début des années 1960 de restrictions visant à réguler les flux migratoires en provenance des ex-colonies. Dans le cas du Royaume-Uni, ces flux proviennent notamment des Caraïbes, de l'Inde et du Pakistan, et à un degré moindre d'Afrique de l'Est, dans les années 1950 et 1960. Il s'agit de flux d'ampleur modérée, mais qui représentent néanmoins une nouveauté importante par comparaison à l'entre-deux-guerres et aux époques antérieures. de premières restrictions sont établies en 1961, avant d'être durcies en 1965 et 1968. La politisation de l'immigration au Royaume-Uni, de Powell à UKIP. La politisation de la question des immigrés extra-européens prend une tournure nouvelle en 1968 avec les diatribes du député conservateur Enoch Powell. Dans des discours abondamment repris et diffusés, Powell annonce que des fleuves de sang vont se répandre dans le Royaume-Uni si les flux migratoires se poursuivent. Il évoque les émeutes raciales aux États-Unis et s'inquiète que son pays connaisse le même sort si l'on continue dans cette voie. Lors de la campagne électorale de 1979, le thème de l'immigration jouera également un rôle significatif. De même que l'exploitation du clivage racial et identitaire a été aux États-Unis l'un des éléments de la stratégie républicaine menant au succès électoral de Nixon en 1968 et 1972 et de Reagan en 1980, l'utilisation du clivage migratoire et identitaire a fait partie de la stratégie de mobilisation conduisant à la victoire de Thatcher au Royaume-Uni. Les questions posées lors de l'enquête post-électorale de 1979 au sujet des relations raciales dans le pays expriment d'ailleurs de façon parfaitement claire la perception qu'ont les électeurs de la politisation de la question. Les électeurs conservateurs interrogés considèrent pour près de 70% d'entre eux que seule la fin de l'immigration peut permettre d'améliorer les relations raciales, et pour guère plus de 30% que la solution serait de créer davantage d'emplois et de logements. À l'inverse, près de 60% des électeurs travaillistes mettent en avant les créations d'emplois et de logements. Lorsqu'on leur demande lequel des deux partis est le plus susceptible de réduire les flux migratoires, 35% des électeurs ne répondent pas. Mais parmi ceux qui répondent, les choses sont parfaitement claires. 63% citent le Parti conservateur et 2% seulement le Parti travailliste. Au cours des années 1980 et 1990, les espoirs des électeurs travaillistes et d'une partie également des électeurs Tories en des politiques sociales et économiques permettant de concilier harmonie sociale et ouverture à l'immigration vont être mis à rude épreuve. Margaret Thatcher, qui avait durci le ton sur l'immigration lors de la campagne de 1979, va se lancer dans des coupes dans les budgets sociaux, tout en fermant un peu plus les frontières. Le New Labour au pouvoir en 1997 reprendra en partie ce double héritage. Après les attentats du 11 septembre 2001, alors que le gouvernement de Tony Blair s'apprête à rejoindre les États-Unis pour aller envahir l'Irak en 2003-2004, la majorité travailliste vote des lois d'exception visant à combattre le terrorisme, mais qui en pratique permettent également d'accélérer les arrestations et les expulsions de centaines de milliers de sans-papiers. Dans Americana, roman publié en 2013 par Chimamanda Ngozi Adichie, c'est précisément le moment où Obinze, sans nouvelles d'Ifemelu, parti aux États-Unis, décide de tenter sa chance au Royaume-Uni. Diplômé du supérieur au Nigeria, il se retrouve à nettoyer des toilettes en Angleterre. Pour avoir le droit de travailler, il emprunte le numéro de sécurité sociale de son compatriote aux origines modestes, Vincent Obi, à qui, en contrepartie, il doit reverser 35% de ses gains. Le renversement de la hiérarchie sociale nigériane est total. Face aux nouvelles traques anti-immigrés organisées par le ministre travailliste de l'Intérieur David Blanket, il se résout à tenter la voie du mariage blanc en ayant recours au service d'avides angolais. Mais il néglige les injonctions de Vincent qui exige maintenant un reversement de 45% de ses salaires. Furieux, Vincent le dénonce à son employeur. Obinze sera arrêté le jour de son mariage et expulsé vers le Nigeria, meurtri par les regards condescendants des Européens face aux Africains qui prétendent choisir leur vie autant que par la bassesse dans laquelle leur loi plonge les migrants. Rappelons que cette période des années 1990 et 2000, en particulier les années du New Labour au pouvoir, 1997-2010, correspond également à la période où s'effondre le niveau de participation électorale au Royaume-Uni, particulièrement au sein des classes populaires. Manifestement, une large part des électeurs ne se satisfait pas du choix limité entre le Labour et les Tories, qui, comme il se doit, promettent une surenchère sécuritaire et anti-immigration, et critiquent le laxisme supposé des travaillistes. À partir du début des années 2010, la politisation de l'immigration prend un nouveau tour au Royaume-Uni et se déplace pour partie vers la question européenne. La crise financière de 2008 accroît un peu partout en Europe les ressentiments et les frustrations. En France, alors que le Front National était au plus bas lors des élections de 2007, il remonte en flèche à celles de 2012 et 2017. Au Royaume-Uni, UKIP dénonce pêle-mêle l'immigration et l'Union européenne avec une ardeur renouvelée, d'autant plus que les pays d'Europe de l'Est viennent de rejoindre l'UE en 2004, en particulier la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, et en 2007, Roumanie, Bulgarie, ce qui a provoqué un afflux de migrants venus de l'Est, bénéficiant dorénavant du régime de libre circulation, à la façon des travailleurs du Commonwealth dans l'après-guerre. Le divorce européen et les classes populaires. Le Parti conservateur jugea alors utile de lancer le pays dans un mouvement de sortie de l'Union européenne. Cela répondait certes en partie à la pression croissante exercée par une partie des Tories et de l'électorat. Le score obtenu par l'UKIP était de 2% lors des législatives de 2005 et de 3% lors de celles de 2010. Il bondit à 13% lors des législatives de 2015. Entre-temps, il a réussi une percée spectaculaire lors des élections européennes de 2014, 27% des voix au Royaume-Uni, et arrive en masse au Parlement européen. Compte tenu du mode de scrutin appliqué aux législatives britanniques, la pression reste cependant limitée. L'UKIP n'obtient qu'un seul siège à Westminster lors des élections de 2015. Mais, pour assurer sa réélection face aux travaillistes, le Premier ministre David Cameron décide de faire adopter dans la plateforme de son parti en vue des élections la promesse d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Sa victoire électorale acquise, il organise donc ledit référendum sur le Brexit, qui a lieu en 2016. Cameron annonce qu'il a obtenu de la part des autres États membres les concessions qu'il souhaitait. Demande qu'il n'avait d'ailleurs jamais véritablement explicité, ni avant, ni après les élections de 2015, jugeant habile de conserver ses revendications secrètes afin d'obtenir le maximum. Satisfait des résultats obtenus, il appelle finalement à voter pour le Remain. Peu convaincu, les électeurs votent à 52% pour le Leave. C'est ainsi que, entre 2016 et 2019, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont entrés dans d'interminables négociations sur l'adoption de nouveaux traités, visant à organiser les relations futures entre le continent et les îles britanniques, ou plutôt une partie d'entre elles, car la République irlandaise reste dans l'Union européenne, tandis que l'Écosse envisage l'organisation d'un nouveau référendum visant à sortir du Royaume-Uni et à entrer dans l'Union européenne. S'il semble acquis que la libre circulation intégrale des travailleurs ne fera pas partie de l'accord, cela n'apporte aucune solution pour autant à la question des règles régissant les déplacements futurs, ni à celle du statut des Britanniques installés dans l'Union européenne et des Européens vivant et travaillant au Royaume-Uni. Quant au libre mouvement des biens, des services et des capitaux, il s'agit de savoir dans quelle mesure le Royaume-Uni devra appliquer les réglementations européennes et pourra signer ses propres accords avec le reste du monde. La difficulté vient du fait que ces complexités ont été largement ignorées lors des débats référendaires. La nature exacte de l'accord, envisagé en cas de victoire du Leave, n'avait pas été précisée, pas plus que celle de l'accord justifiant le Remain. Il est impossible à ce stade de prévoir l'évolution des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pas plus d'ailleurs que les transformations à venir des traités régissant le fonctionnement intérieur de l'UE. Il est important cependant d'insister sur la multiplicité des trajectoires possibles et sur le sentiment que l'organisation actuelle de l'Union européenne pourrait faire l'objet de profonds changements. De façon générale, il serait trop facile de se contenter de stigmatiser les stratégies politiques opportunistes et inconséquentes qui ont conduit au Brexit ou le nationalisme supposé des électeurs britanniques. Cette séquence événementielle aurait pu se dérouler différemment et pourrait se retourner à l'avenir. Mais, si elle a été rendue possible, c'est aussi et surtout du fait des profondes insuffisances de la construction européenne telle qu'elle a été développée dans le passé par les responsables politiques des différents pays, y compris par les travaillistes et les conservateurs britanniques. Mais les responsabilités vont bien au-delà et se trouvent également en France, en Allemagne et dans tous les pays. Si l'on examine la structure du vote pour le Brexit en 2016 en fonction du niveau de diplôme, de revenus et de patrimoine, les résultats sont extrêmement clairs. Quelle que soit la dimension retenue, les catégories les plus modestes ont massivement voté pour le Leave, et seuls les 30% les plus favorisés ont soutenu le Remain. Voir graphique 15.18. Les plus diplômés semblent avoir exprimé un attachement encore plus marqué à l'Union européenne, entre 55 et 75% de vote Remain, que les plus hauts patrimoines, entre 60 et 65% de vote Remain. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'une partie de ces derniers pense pouvoir tirer parti de la possible transformation du Royaume-Uni en paradis fiscal, perspective brandie par une partie des Brexiteers Tories. Au final, le plus frappant est surtout que la question européenne a provoqué un clivage considérable entre classes populaires, moyennes et supérieures, quelle que soit la dimension de stratification sociale considérée, diplôme, revenus et patrimoine. Ce résultat est d'autant plus spectaculaire que cette structure classiste du vote a depuis longtemps cessé d'être celle caractérisant le système de partis qui est devenu au cours de la période 1990-2020 un système à base d'élites multiples, avec un vote travailliste attirant les plus diplômés et un vote conservateur regroupant les plus hauts revenus et patrimoines. Surtout, ce résultat extrêmement clivé, socialement, observé lors du référendum britannique de 2016, est d'autant plus frappant que l'on a constaté exactement le même profil de vote lors des référendums français de 1992 et de 2005 sur l'Europe. Autrement dit, à plusieurs décennies de distance, dans des pays européens différents, on constate un divorce complet entre les classes populaires et la construction européenne. Au Royaume-Uni comme en France, l'enjeu européen est devenu au cours de la période 1990-2020 le sujet qui fédère d'un côté les élites éduquées et financières de la gauche brahmane et de la droite marchande, en gros autour du maintien de l'organisation actuelle de l'Europe, et de l'autre, les catégories modestes et moyennes, soudées autour du rejet de l'Europe actuelle, sans pour autant que cela implique l'approbation d'un projet alternatif précis. Comme je l'ai déjà noté en examinant le cas français, expliquer cet état de fait simplement en évoquant la tendance irrépressible au nationalisme et au racisme qui animerait les classes populaires paraît particulièrement court et peu convaincant. Le racisme des catégories modestes n'est pas plus spontané que celui des élites. Tout dépend du contenu du projet sociopolitique sur lequel s'appuie l'internationalisme. Or, le projet européen est basé principalement sur la mise en concurrence généralisée des territoires et des personnes, et sur la libre circulation des biens, des capitaux et des travailleurs, sans tentative de mise en place d'outils communs visant à assurer une plus grande justice sociale et fiscale. En ce sens, l'Union européenne fonctionne différemment des autres grands ensembles régionaux et fédéraux de la planète, qu'il s'agisse par exemple des États-Unis d'Amérique ou de l'Union indienne. On observe dans ces deux cas des formes de budget ou d'impôts progressifs au niveau fédéral qui pourraient certes être améliorées, mais qui sont autrement plus ambitieuses que celles observées au niveau de l'Union européenne. Dans le cas de l'UE, le budget fédéral est minuscule, environ 1% du PIB européen, contre 15-20% du PIB en Inde et aux États-Unis. Il n'existe aucun impôt fédéral, alors que les impôts pesant sur les acteurs économiques les plus importants, et en particulier l'impôt progressif sur les revenus et les successions, et l'impôt sur les bénéfices des sociétés, sont systématiquement centralisés au niveau fédéral en Inde, comme aux États-Unis. L'Union européenne offre au contraire l'exemple d'une organisation politique régionale au sein de laquelle le principe de la concurrence pure et parfaite tient lieu de ciment unificateur quasi unique. Or, le problème est que la concurrence fiscale et sociale entre États membres bénéficie avant tout aux acteurs les plus puissants. En particulier, le Brexit illustre les limites d'un modèle basé sur la libre circulation des travailleurs sans règles sociales et fiscales communes véritablement contraignantes. À leur façon, les expériences limitées de libre circulation expérimentées par le Royaume-Uni et la France avec leurs anciennes colonies dans les années 1950 et 1960 illustrent également le besoin de régulation sociale et politique commune qui doit accompagner la liberté de mouvement. Si l'UE ne parvient pas à se transformer pour incarner un projet alternatif, bâti autour de mesures de justice fiscale et sociale, simples et lisibles, il est peu probable que les classes populaires et moyennes revoient leur opinion à son sujet. les risques de nouvelles sorties, ou bien de prise de contrôle du projet européen par les idéologies nativistes et identitaires, seraient alors considérables. Avant d'examiner plus avant les trajectoires possibles visant à sortir de ces impasses, il nous faut d'abord poursuivre notre passage en revue des transformations de la structure des clivages électoraux dans les différents pays, au-delà du cas du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France, en examinant maintenant le cas d'autres démocraties électorales occidentales et non occidentales, en particulier en Europe et en Inde.